Alors, on va commencer la leçon 1 dans la série Glorifier Dieu dans votre corps. Aujourd'hui, ça va être une introduction générale qui va nous parler un petit peu de l'auteur que j'ai utilisé et un petit peu pourquoi ce pasteur-là, qui s'appelle Albert N. Martin, qui est un gars qui est un pasteur au New Jersey. Il a été 40 ans dans le ministère, alors c'est un homme qui il vient d'avoir, j'ai vu sur Internet, qu'on a fêté sa 80e anniversaire récemment. Alors, c'est pas... premièrement, c'est un gars qui est très, très, très cultivé théologiquement. Et c'est un gars aussi qui a une excellente réputation aux États-Unis parce qu'il est invité de façon régulière un petit peu partout dans les États-Unis, dans le Canada. Alors, c'est un gars qui est très connu et qui est très articulé. S'il y en a qui veulent y aller goûter un peu au style de prédication, c'est un homme qui est enflammé. Si vous allez sur Internet, disons sur Sermon Audio, par exemple, puis vous tapez Albert N. Martin, il y a plusieurs séries de sermons qu'il a faites, et il a un style bien, bien, bien particulier. C'est un homme, en anglais, il appelle ça « fiery », c'est comme plein de feu. Quand il prêche, tu t'ennuies pas. alors c'est vraiment c'est un super de bon auteur et un super de bon prédicateur aussi, en même temps. Alors, lui, dans son livre, il commence un petit peu à introduire le problème que lui, il voit dans la société nord-américaine et aussi dans les églises. Parce que le problème dont il parle est aussi dans les églises. Mais les statistiques qu'il donnait, c'était des statistiques américaines. Je me suis dit, fort probablement que la situation est à peu près la même au Canada, mais pour faire changer un petit peu, j'ai fait une recherche sur Internet sur le même sujet, et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé sur Internet concernant le problème du mauvais traitement que la société et que peut-être... Puis certains d'entre nous donnent à leur corps en termes de négligence ou en termes de mauvais traitement. Alors, la société canadienne, bien entendu, souffre de très graves problèmes d'obésité qui entraînent de graves conséquences au niveau de la santé physique et mentale, parce qu'on sait que les deux sont interreliés, et autant chez les enfants que chez les adultes. Parce qu'il y a une progression phénoménale de l'obésité chez les enfants. Et aujourd'hui, tu vois des enfants de 8, 9, 10 ans qui sont déjà obèses, presque malades. Alors ça l'entraîne, bien entendu, des conséquences au niveau de la santé physique et mentale. Et aussi, ça l'entraîne d'énormes coûts économiques. Alors, il semble que le problème est aussi important dans les églises chrétiennes. Moi, je vous dis ça sur la base de mon observation personnelle. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais à l'école biblique, il y avait un étudiant qui était avec moi. Et il parlait souvent à ça. Lui, il était dans le milieu des frères chrétiens. Puis il me disait souvent, « C'est épouvantable comment que des problèmes d'obésité dans l'église. » Et moi, je lui disais, « Ben, si tu trouves ça, pourquoi tu ne prêches pas là-dessus? » Et il n'osait pas, autrement dit. Parce que c'est délicat quand tu es dans une église, puis il y a presque la moitié de l'église qui a des problèmes d'obésité, y compris parfois celui qui prêche. Mais il ne faut pas oublier une chose, quand on prêche, on se prêche à nous-mêmes aussi. Là. Autre chose, autre observation que je dis, ce n'est pas à cause qu'une personne n'a pas d'obésité corporelle qu'elle traite nécessairement très bien son corps aussi. Parce que c'est facile, quand tu es mince, de regarder et de dire « Ah oui, toi, on le voit bien, on le voit que tu as des problèmes. » Mais des fois, moi, j'ai vu, dans ma vie chrétienne, de très petites personnes être plus gourmandes que des gros. C'est un fait, ça aussi. Là. Alors, on va regarder le problème de tout ça. Là. Alors, je vous donne l'extrait que j'ai trouvé sur Internet, d'un document officiel qui a été présenté par l'Association canadienne médicale sur le problème de l'obésité, et ils ont présenté ça au Sénat canadien. Alors, c'est un document officiel, c'est un document qui parle de choses. Alors, ça dit, là, je vous le cite mot pour mot, « plus de la moitié, donc 62% des adultes au Canada ont du surpoids selon l'enquête canadienne sur les mesures de la santé. Le quart des adultes du Canada peuvent être considérés comme étant obèses ayant un indice de masse corporelle plus grand que 30, ce qui est deux fois plus élevé que le taux d'obésité de 1979. Voyez-vous, pas bien longtemps, là. On parle pas de, on parle de quelques années, là. 1979, et on parle que ça l'a doublé. Alors, on voit que le problème, il s'en va pas en diminuant. Ça dit aussi, la montée de l'obésité est la plus marquée chez les personnes les plus lourdes au Canada. Depuis 1985, la prévalence de l'obésité extrême, ce qu'on appelle l'obésité extrême selon les spécialistes, c'est un indice de masse corporelle plus grand que 40, est passée de 0,3% à 1,6. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est quatre fois, ça. Alors, ça n'arrête pas, là. C'est de plus en plus marqué et ça a de plus en plus d'incidence sur la santé physique et mentale, en plus des coûts astronomiques que tout cela entraîne de toutes sortes. Alors, ça dit que ça a passé de 0,03 à 1,6, c'est-à-dire qu'elle a plus que quintuplé. C'est 15 fois en si peu de temps. Alors, d'après les autorités médicales, on s'en va vers un mur. Ça va être terrible tantôt. Les hôpitaux vont déborder à cause de ces problèmes-là. Alors, un enfant sur 10 au Canada, là, on ne parle pas d'Américains, on parle d'un enfant sur 10 au Canada est obèse. L'obésité chez les enfants et les jeunes a plus que doublé depuis la fin des années 70. Pas longtemps, en 1970, là. Ça fait juste 48 ans. Ça a doublé. Et ça n'a pas l'air à vouloir s'en aller vers une amélioration. Alors, ça dit aussi, la prévalence du surpoids et de l'obésité est plus élevée dans certains groupes de la population canadienne, en particulier chez les Autochtones et les personnes défavorisées sur le plan socio-économique. Alors, quand ils font des études, ils se rendent compte que certaines sociétés, certains groupes sociaux, comme les Autochtones et les personnes défavorisées, ces problèmes-là sont plus importants. Alors, l'obésité préoccupe particulièrement les médecins du Canada parce qu'elle accroît le risque d'avoir certains problèmes de santé sérieux. Hypertension artérielle, on entend parler rien que de ça aujourd'hui. Hypercholestérolomie, là j'ai des grands mots, cardiopathie, autrement dit les problèmes de cœur, accidents vasculaires cérébraux, les ACV qu'on entend parler de plus en plus, diabète de type 2, arthrose, lombalgie et autres troubles musculo-squelettiques, sans compter de nombreux types de cancers. Tout ça, c'est un gros monde. Le diabète de type 2, que l'on constatait auparavant chez les adultes seulement, fait maintenant son apparition chez les enfants. Les promoteurs de la santé craignent qu'à cause de l'obésité, les générations d'enfants d'aujourd'hui n'aient une espérance de vie beaucoup plus courte que celle de leurs parents. Outre une mauvaise santé physique, les personnes obèses risquent plus que les personnes qui ont un poids normal d'éprouver des problèmes de santé mentale comme une faible estime de soi, la dépression et l'anxiété. La stigmatisation rattachée à l'obésité est grande. Les personnes obèses risquent d'être intimidées, ostracisées, et victimes de discrimination au travail. Certaines se tournent vers la nourriture pour soulager leur stress ou échapper à leur mal de vivre, ce qui perpétue un cercle vicieux sur le plan de l'alimentation et de la santé mentale. L'Agence de santé publique du Canada estime que les problèmes de santé liés à l'obésité ont entraîné des dépenses de 4,6 milliards de dollars au Canada en 2008, à la fois en coûts directs, comme les services hospitaliers et ceux des professionnels de la santé, et en coûts indirects, demande de prestation d'invalidité, dommages psychologiques, perte de productivité. Selon d'autres estimations, les chiffres seraient encore beaucoup plus élevés. Alors, la source d'où j'ai pris ça, c'est l'obésité au Canada, les causes, les conséquences et l'avenir de l'Association canadienne médicale, un mémoire qui a été présenté au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie en juin 2015. Alors, c'est tout récent. C'est un portrait de l'évaluation globale. Là, je n'ai pas tout le rapport, mais c'était juste l'introduction pour voir un peu ce qu'on est rendu avec tout ça au Canada. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la responsabilité des chrétiens de prendre soin de leur corps? Et là, je ne fais pas juste vous parler à vous, je me parle à moi-même en même temps. Inquiétez-vous pas là-dessus. Là. Quelques observations préliminaires. Il y a deux extrêmes dans la société moderne qu'on voit tous les jours autour de nous quant au rapport que les individus ont avec leur corps. Alors, la première, c'est l'adoration de notre corps. On pourrait appeler ça l'adoration de notre corps. Lorsque on feuillette les magazines modernes, on constate le nombre effarant d'articles et de publicités promettant la plus grande beauté du corps sous toutes ses formes. Nous observons aussi la prolifération massive de clubs de santé, de salons de bronzage, de suppléments pour favoriser l'amaigrissement sans effort, et de concepts pour améliorer la forme physique des livres, des DVD et tout ce que tu voudras. Les hommes se voient offrir de l'aide pour se débarrasser de leur petite poignée d'amour, leur petit bourrelet de graisse, pour développer des pectoraux, pour détourner les regards féminins et pour durcir les petites bedaines de bière. On voit ça tout, partout autour de nous. Ça nous fait rire. Mais dans le fond, là, le problème, il est là, puis il est vraiment enraciné. Et si on ne tient pas compte de ce que les Écritures nous enseignent sur le sujet, on va s'en aller dans la même direction que la société s'en va en général. Et ce n'est vraiment pas la bonne direction. Cette obsession sociale-là du corps a amené aussi des nouvelles maladies. L'auteur du livre que je me sers, Albert Martin, il dit « Quand j'étais jeune, là, on n'entendait pas parler de ça, de l'anorexie puis la boulimie, alors que c'est rendu une épidémie. » Ça, c'est une mauvaise conception, une mauvaise relation que les gens ont de leur rapport avec leur corps. Alors, l'anorexie et la boulimie. L'anorexie, c'est ce désordre alimentaire qui est caractérisé par une aversion envers la nourriture et une obsession de la perte de poids et qui se manifeste par la privation excessive et par l'exercice physique exagéré. Moi, j'ai vu des émissions, des fois, sur la télévision, sur ce sujet-là. Des femmes sont tout petites, sont rendues qui pèsent 80 livres, tu leur vois les os à travers la peau et ils se trouvent encore grosses. Quelque part, là, il y a quelque chose de... Il y a vraiment un problème. Et le problème est de nature spirituelle. C'est un problème de relation avec ton corps. Et il faut dire que la société contribue beaucoup à maintenir ça ou à développer ça. Et l'autre, c'est la boulimie. La boulimie, c'est le désordre alimentaire. Ça dit bien, c'est un désordre. C'est du désordre. Le désordre alimentaire qui consiste à se gaver exagérément de nourriture, pour ensuite tenter de s'en débarrasser en se faisant vomir volontairement. Et ça, là, moi, des fois, je rencontre des gens, je me souviens une fois, j'étais à Rouen, avant deux, je rentre dans un restaurant ici, j'en vois une rentrer, je lui dis, elle, là, presque sûre que c'est des problèmes comme ça. Tu sais, t'as rendu mig. Ou ça se pouvait que ça soit d'autres choses que ça, là. Mais c'est tellement répandu dans la société aujourd'hui que, bien entendu, c'est risqué qu'on en voit même dans les églises. Alors, c'est la raison pour laquelle cette série-là, on la commence. Il semble que ces personnes sont tombées dans le piège dont la Bible parle dans Romains 1, 25. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Autrement dit, quand on met l'accent exagéré sur soi, dépenser une fortune pour avoir l'air d'Arnold Schwarzenegger, que les femmes sont rendues, qui se font opérer pour avoir un plus gros fessier, ou qui se font opérer avec 56 affaires de botox, de tout ce que tu voudras, c'est vraiment un mauvais rapport avec ton corps. Et si on se dirait, c'est juste les païens qui font ça, c'est juste en société en général, il n'y a aucun chrétien qui embarque dans ce panneau-là, alors pas besoin de prêcher ça. Mais il y en a. C'est un fait. La deuxième extrême, c'est la négligence complète de ton corps. Ou bien non, ton corps devient un idole que tu adores comme si c'était Dieu et que tu lui donnes tous les soins nécessaires et tout l'argent nécessaire. Et l'autre extrémité, c'est la négligence. Ou bien non, tu le places sur un piédestal et ça devient presque un dieu. Ou bien non, l'autre extrémité, que les gens manifestent leur négligence de leur corps par une super mauvaise alimentation, ce qui est très répandu dans notre société. L'abus d'alcool, l'abus de drogue, la négligence de l'apparence physique, la malpropreté, etc. Alors, tu as comme, ou tu prends ton corps pour un dieu, ou tu le négliges à un point. Ces deux extrêmes qui sont deux désordres, qui sont tous les deux aussi déshonorants pour le Seigneur un que l'autre. Alors, le deuxième point que je voulais amener, c'est juste pour vous donner, je voudrais vous parler de la crédibilité du messager. Le messager, c'est Albert N. Martin. Alors, dans son livre qui s'appelle « Glorifying God in Your Body », il a écrit ça en 2015, et il dit que le problème aux États-Unis, s'il y a une affaire, je pense qu'il est encore pire qu'ici, parce que je me souviens d'avoir déjà entendu un reportage sur le Texas. C'est épouvantable, c'est presque pas croyable comment les gens se gavent là-bas, c'est... Dans les restaurants, c'est fou, là. C'est rendu là, dément. Là. À quelque part, lui, il dit qu'il a vu ça, puis il dit que c'est décourageant, parce qu'il dit si je verrais ça uniquement chez des païens, ben je me dirais c'est normal, ils n'ont pas Dieu. Mais quand ça commence à rentrer dans les églises, là, il est temps qu'on commence à prêcher sur le sujet. Alors, pour donner une idée de qui c'est ce bonhomme-là, le pasteur Martin a été dans le ministère à l'église Trinity Baptist Church de Montville. Alors, c'est pas mal la même croyance que nous, le 1689. C'est un gars qui a toujours été fidèle aux Écritures. Dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, et il a servi comme pasteur pendant 46 ans. Alors, il a écrit ça sur la fin de sa carrière. Il sait de quoi il y parle. Il a aussi enseigné la théologie pastorale à l'église, à l'école biblique Trinity Ministerial Academy, pendant 20 ans. Comme je vous ai dit tantôt, s'il y en a qui veulent goûter à son style, je vous le recommande. Allez sur Sermon Audio, puis tapez Albert N. Martin, vous allez voir. Et si vous écoutez ses sermons, vous allez voir que s'il y a un gars qui s'adore pendant que lui prêche, on va vous dire une affaire, il est bon. Parce que c'est un gars que quand il prêche, il a de la conviction et il est plein de feu. C'est intéressant à écouter. Je l'avais déjà écouté quelques sermons de lui quand on avait préparé notre série sur la crainte de Dieu. Il a fait toute une série, je pense, 15 ou 20 sermons sur la crainte de Dieu. Et c'est intéressant à écouter, très intéressant. Alors, tous ceux qui l'ont connu, le pasteur Martin, affirment que ce n'était pas un théoricien seulement. Pas un gars qui fait juste parler de la théorie. C'est un gars qui met en pratique ce qu'il enseigne. Et ça, c'est pour moi, quand je lis ça, je me dis, il ne fait pas juste parler, il agit. Et maintenant, il est à la retraite au Michigan et il est en train de travailler à mettre tous ses enseignements de sa vie, qui sont tous classés, sur DVD. Et c'est ça qu'il est en train de faire. J'ai vu l'autre jour sur Facebook qu'il avait fêté son 80e anniversaire. Il est quand même assez bien conservé pour son âge, puis... Et il va avoir fait beaucoup de bien dans sa vie, ce bonhomme-là. Le docteur en théologie et pasteur qui s'appelle David Murray, c'est le même que celui qui a écrit celui sur la série qu'on vient de terminer, là, sur la dépression. David Murray, lui, il connaît très bien là, ce pasteur-là. Dans son avant-propos, c'est lui qui a signé l'avant-propos du livre, il dit qu'il a littéralement dévoré des centaines de sermons du pasteur Martin au cours de sa vie. Il dit que ça l'a formé littéralement. Parce que c'est un homme que quand tu l'écoutes, tu ressors de là grandi, ça c'est sûr. Il connaît beaucoup ses écritures, il est très, très, très biblique. Puis quand quelqu'un commence à être demandé tout partout aux États-Unis ou au Canada pour aller prêcher dans les grosses églises, c'est bon signe. C'est parce que les gens reconnaissent qu'il prêche solidement. Alors lui, après avoir étudié et regardé l'ensemble de la prédication d'Albert Martin, voici ce qu'il dit sur les caractéristiques de son œuvre en général. Il donne huit caractéristiques de l'enseignement du pasteur Martin. Premièrement, tous ses sermons et ses écrits sont centrés sur Dieu. Très important. Deuxièmement, tous ses sermons et écrits sont biblique. Je viens de sortir de son livre là, les versets T'en veux-tu? En v'là. Il ne fait pas juste dire n'importe quoi, ça sort des Écritures. Troisième caractéristique, c'est que c'est pratique. C'est un homme qui est pratique. Il veut que les enseignements produisent des changements concrets dans la vie de tous les jours des gens à qui il prêche ou à qui il écrit. Autre quatrième caractéristique, c'est pertinent. Pertinent, c'est que tu parles de quelque chose qui correspond à un besoin réel, qui observe dans la société et qui observe aussi dans les églises modernes. Alors, quand un gars de même se promène à travers les États-Unis puis qu'il rentre dans les églises, il le voit le problème devant lui. Il y a 200 personnes, 200 personnes dans une salle, tu regardes, puis il y en a plus que la moitié qui sont obèses. Quelque part, ça commence à ressembler à la société. Cinquième chose, c'est quelqu'un qui est passionné pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, le titre même de son livre dit Glorifying Dieu, God in your body. Donc, le but de son livre est d'amener les chrétiens à changer des choses dans leur vie, dans leur rapport avec leur corps, pour glorifier Dieu. Et la sixième, c'est un gars qui est mémorable pour ses illustrations. Vous allez voir que à partir des autres semaines, la manière dont il amène ses enseignements, moi, je trouve ça brillant. Autrement dit, il prend des images qui sont fortes et qui nous restent dans la mémoire à cause de l'image comme telle qu'il utilise. Alors, il est fort sur les illustrations. Et les illustrations, par exemple, on va arriver là-dessus, à un moment donné, il va comparer ça à un collier avec huit rangées. Avec chaque rangée va être des perles et chaque perle va vouloir dire quelque chose. Et c'est vrai que ça reste après, plus que c'est juste dit des énumérations. Aussi, septième, c'est un gars qui est équilibré, dans le sens qu'il utilise les écritures, mais aussi il intègre les connaissances scientifiques qui sont vraies de nos jours. Les deux ne sont pas contradictoires. Faut garder les principes bibliques en premier, mais il faut tenir compte aussi de ce que la science nous enseigne autour de nous. Et la huitième, c'est centré sur l'Évangile. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur, parce que c'est un bonhomme qui ne cherche pas à se bâtir un petit ministère sur ce sujet-là, là. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui prêche très, très, très bien. Alors, on va faire un autre petit bout, à peu près 2 ou 3 minutes. Là, il fait une observation que je trouve tellement brillante. Quand on parlait de ces illustrations, on en voit une. Il dit, si tu veux comprendre et mettre en pratique la doctrine de la sanctification du corps, tu te dois de te rappeler constamment deux autres vérités ou doctrines si tu ne veux pas sombrer dans l'erreur théologique quant au rôle que nous, on peut jouer pour changer quelque chose dans cette situation-là. Et je vous montrerai l'image. L'image, c'est que Notre vie chrétienne, c'est comme si ça serait toutes des livres. Si vous prenez, disons, des livres d'un pouce d'épais, vous en prenez 8, puis vous les mettez sur une table, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tomber. Alors, lui, il dit que pour travailler ce qu'on va regarder au cours des prochaines semaines, il faut que tu mettes, il appelle ça des bookends, ou bien non, des appuis-livres, deux appuis-livres sur lesquels tu vas continuellement revenir pour te souvenir de ce que les deux appuis-livres sont, parce que les livres qui sont au milieu, c'est notre vie sous tous ses aspects. Puis si tu veux que ça tienne debout, il faut que tu te souviennes que des deux appuis-livres, et quels sont les deux appuis-livres. Alors, il cite là, un livre qui s'appelle « The Book Ends of the Christian Life », qui est écrit par Jerry Bridges. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jerry Bridges, c'est un gars qui a écrit beaucoup sur la sanctification, avec Bob Bevington, qui ont écrit ce sujet-là, et qui ont amené, et lui, il a tellement aimé cette illustration-là, qu'il dit « Je vais l'utiliser tout au long du livre et de mes prédications et du livre. » Alors, ces deux personnes-là nous rappellent justement que les deux appuis-livres, c'est une métaphore. Une métaphore, c'est une comparaison qui veut parler des deux appuis-livres. Le premier, je vais juste les mentionner, on va revenir la semaine prochaine, on va arrêter là-dessus. Je vais juste les mentionner, c'est quoi la nature des deux appuis-livres, et après on va développer pour expliquer qu'est-ce que c'est. Le premier appui-livre, c'est la justice de Christ. Autrement dit, te rappeler que la victoire, tu vas l'obtenir à cause de Jésus-Christ, sa justice acquise, la justice imputée. Et la deuxième appui-livre, c'est la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, si tu essayes de changer quoi que ce soit dans ta vie, dans ton rapport à l'alimentation, dans ton rapport à l'exercice, dans ton rapport au jeûne, dans ton rapport à la sexualité, si tu essayes par toi-même, tu vas avoir un échec complet. Alors, là, c'est te rappeler que si tu as de la victoire, ça va être par la puissance du Saint-Esprit, et l'autre extrémité, c'est la justice de Christ. Et ça, on va revenir là-dessus. Là, je fais juste les mentionner, parce qu'on ne peut pas aller plus loin ce soir, mais c'est très intéressant comme idée. Très intéressant, c'est même brillant, parce que sans ça, ça ne marchera pas. Autrement dit, si tu essaies de changer quoi que ce soit dans ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines, par toi-même, Si tu ne te rappelles pas des deux principes qui sont les deux appuis-livres des extrémités qui tiennent les livres de ta vie, ça va tomber. On va revenir là-dessus, ça va être intéressant.